Même moi, j'en ai frappé des pénaltys, même en Coupe d'Europe, où j'ai pris des risques. Si je le loupais, ben, au moins j'avais tenté de le frapper. Dortmund, ça a été. Puis on se crée beaucoup d'occasions. Et malheureusement, on va au tir au but. Hein. Et je me souviens, quand je vais frapper mon pénalty, il y a le gardien allemand qui me chambre un petit peu en allemand. Je marque le pénalty. Et j'ai la délicatesse de lui faire un doigt d'honneur derrière. On voit bien sur les images.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du podcast des légendes. Bâti comme un chêne, la légende que nous recevons aujourd'hui était un défenseur dur sur l'homme qui n'avait pas peur de secouer ses adversaires. Il fait partie de la génération dorée de l'AJ Auxerre dont il a été capitaine. En plus de ses qualités défensives, sa technique et son jeu de tête lui ont permis de faire une splendide carrière internationale puisqu'il a été aussi à l'OM, Bordeaux, Manchester United, Napoli et également au Danemark et en Belgique. Il appartient au cercle fermé des joueurs ayant une sélection en équipe de France et pas n'importe laquelle, puisque la sienne était face au Brésil de Romario et Bebeto. Cette légende qui inspirait l'effroi des défenseurs adverses, c'est...
C'est évidemment William Prunier. Nous sommes ravis, William, de t'accueillir dans ce podcast des légendes pour un nouvel épisode, mais vraiment glorieux.
Le plaisir est partagé.
Donc, écoute, le concept est vraiment simple, William. L'idée, c'est d'être comme à la maison. Donc, si tu as un feu de cheminée, tu peux l'allumer. Tu peux l'allumer en prenant tes précautions, mais installe-toi, mets tes petites charentaises, le feu de cheminée, un peu de boisson et on va être ensemble pendant un bon moment pour essayer d'évoquer ta carrière, les bons moments et spécialement et surtout les petites anecdotes qui font le sel de la vie d'un footballeur. C'est ça qu'on recherche.
Ok, avec plaisir. C'est parti.
J'avoue que je suis vraiment très excité par ce podcast parce que moi, quand je joue au foot et j'ai eu ma période défenseur et moi, je voulais effrayer l'adversaire, je me prenais pour William Prunier. C'est véridique.
Mais c'est
donc,
vrai.
Donc,
est-ce que c'est un compliment?
Complètement. Ah oui, complètement.
Mais c'est plutôt un compliment, ouais. Après, le jeu était différent.
Après, je me focusais plus sur le côté brutal que sur le côté technique. Bon, mais ça, c'était plus dû à mes propres limitations qu'à autre chose.
C'est parti. Alors, première question, William. Comment est née la passion du foot?
La passion du foot, j'ai commencé à taper dans un ballon à l'âge de 8 ans. Voilà, dans les quartiers de la banlieue parisienne Montreuil-sous-Bois. Voilà, sur un terrain de basket. Avec mes petits amis, mes amis qui sont encore mes amis aujourd'hui. Voilà. Et pendant plusieurs années, ça a duré, après les cours, la scolarité, après l'école, d'aller taper dans les ballons avec mes amis, encore une fois. Et après, je me suis inscrit dans un club, mes parents m'ont inscrit dans un club de football qui s'appelait le Restart de Montreuil. J'ai passé quelques années quand même. Et c'est là que j'ai pris beaucoup de plaisir.
Et est-ce qu'à l'époque, tu sentais que t'étais déjà la petite star dans ton quartier? Tu sentais que t'avais des facilités ou c'est venu plus tard?
Je pense que c'est venu un peu plus tard. Hein. C'était surtout un amusement au départ. Hein. C'est un amusement. Après, quand j'ai signé ma première licence, oui, c'est devenu une passion aussi, le football pour moi. C'était le seul sport que je pratiquais en étant jeune. Et là, au fur et à mesure, on devient vraiment un passionné du ballon. On pense pas à autre chose. On pense qu'à ça. Voilà. Je vivais uniquement pour ça. C'était maison, école et puis et foot. Voilà, club. Voilà, j'ai eu la chance de jouer dans un club très familial à l'époque.
Et tu jouais déjà défenseur à l'époque?
Alors là,
est-ce que ça a toujours été ton
non,
poste?
Non, justement, en bas de chez moi, quand je jouais sur le terrain de basket, on installait des buts avec nos manteaux. Je me souviens très bien. Ou nos t-shirts.
Et, vos cagoules.
Ouais, nos cagoules. Et enfin, bon, je jouais toujours attaquant. J'ai toujours aimé jouer attaquant. Voilà, j'ai commencé attaquant au Restart de Montreuil. Par la suite, j'ai été recruté par le Paris FC. J'avais 12 ans, le Paris Football Club. Et j'étais encore avant-centre. Voilà, j'avais fait une détection où j'avais été pris dans les 20 joueurs qu'ils recherchaient et comme attaquant. Voilà. Et j'ai fait une saison en minime au Paris FC. C'était les années 80, 81, voilà, 82 même, je crois, 81, oui. Et en attaque, je jouais même avec Mickaël Madar, qui est devenu aussi international, ancien attaquant.
Il y a aussi un physique imposant.
Un physique imposant. Et voilà, c'est comme ça que je me suis dévoilé des talents de buteur. En jeune, je marquais beaucoup de buts. Et après, j'étais tellement bon devant que j'ai été sélectionné en Ligue de Paris. Et le sélectionneur, en fin de compte, a dit « Vu ton gabarit, on va te mettre derrière ». Et je peux vous dire que j'avais failli déjà à cet âge-là.
Ça t'a fait plaisir quand t'entends ça ou t'étais…
Non, c'était une grosse déception. Grosse déception, ouais. Mais pour aller en sélection en Ligue de Paris, c'était la seule…
Option.
La seule issue pour pouvoir être en sélection, voilà. Et donc, j'ai commencé défenseur central. C'était un choc quand même.
Et t'avais jamais joué en défense à ce moment-là, c'est ça? Donc,
pour résumer, jusqu'à présent, t'étais toujours en attaque. Et là, ils te disent, t'es obligé de jouer en défense, sinon t'es pas prêt.
Exactement. J'étais toujours attaquant. Et quand la Ligue de Paris est arrivée, c'était François Blacard à l'époque qui m'a positionné en défense centrale. Et il m'a dit, c'est ça ou rien. C'était imposé. Ou je refusais la sélection Ligue de Paris. Voilà. Donc, j'ai commencé défenseur central à cette époque-là. Ce qui m'a permis d'avoir des contacts avec certains clubs. À l'époque, donc je vais en sélection de Ligue de Paris. Je démarre donc défenseur central. Et la JOCR s'intéresse à moi. Le LOSC, Lille, l'AS Monaco. Mmh. Voilà, et j'avais, c'était en 81, j'avais 13 ans et demi, quoi.
Et c'était toujours pour ce poste de défenseur ou c'était, on sait pas?
Toujours pour ce poste de défenseur.
Ah oui.
Et je suis même devenu international français à l'âge de 14 ans. Parce qu'il avait les sélections.
Et donc à ce moment-là, tu sais quand même qu'une carrière dans le foot est tout à fait envisageable. C'est du domaine du possible puisque tu étais détecté, t'es sélectionné, tu te dis, c'est un peu plus qu'un rêve, j'imagine, à ce moment-là.
Oui, c'était devenu vraiment une passion. J'avais envie de faire quelque chose dans le football. Et là, vous parliez de Christian Lopez. Je me rappelle, à cette époque-là, il était à l'AS Saint-Etienne. Il jouait toujours à une ceinture autour du dos. Je me souviens très, très bien. Et mon premier maillot en tant que jeune joueur, c'était à l'AS Saint-Etienne. Voilà. Donc, j'étais supporter de Saint-Etienne. J'ai jamais joué à Saint-Etienne. Donc, c'est un peu bizarre, mais pour revenir sur Christian Lopez que vous avez interviewé aussi. Et c'était quelqu'un que je m'étais identifié un petit peu en tant que défenseur aussi.
Alors ça va être chouette de pouvoir comparer un petit peu ce qu'il nous a raconté sur ses techniques de chopage. On pourra peut-être en parler un peu plus tard. Il a un peu discuté de la façon dont il a intimidé les défenseurs. J'espère qu'on pourra un peu comparer les techniques un peu plus tard dans l'interview. Juste pour retracer un peu la chronologie, donc tu as 12 ans quand t'es détecté par le Paris FC et qui te font descendre en défense centrale, c'est ça?
Ouais, exactement. Non.
Donc juste
non. Le pire c'est que j'arrive au Paris.
À Paris, tu continuais d'être attaquant.
Exactement. Au Paris FC, je continue à être attaquant. Je vais en sélection, ils me font jouer défenseur central.
Et là, quand tu reviens au Paris, ils te laissent toujours attaquant?
Toujours attaquant.
D'accord. Donc, en fait, tu avais double travail, quoi. Un travail de défenseur pour la Ligue et autrement, attaquant dans ton club.
Exactement. C'était incroyable. Incroyable. Aujourd'hui, on pourra plus voir ça aujourd'hui.
Non.
Bah, c'est ça. Ça paraît incroyable vu la façon dont les joueurs maintenant se super spécialisent très tôt. En Monaco, Auxerre, tout ça, quand ils viennent te voir, il y en a aucun qui est intéressé par ton poste d'attaquant. C'est vraiment chaque fois défense centrale.
Exactement. C'est en défense centrale. Parce que je faisais les tournois de ligue. Voilà. On jouait contre les sélections de Bourgogne, de Méditerranée, etc. La Loire. Moi, je faisais partie de la Ligue de Paris. Et je jouais défenseur. Donc, il y avait beaucoup de recruteurs déjà à cette époque-là.
Et donc, quand les recruteurs viennent, ils viennent te voir toi ou ils viennent te voir tes parents?
Alors là, je me souviens très, très bien. C'était des courriers qu'on recevait.
D'accord.
On recevait des courriers. On avait reçu des courriers d'Auxerre, de Lille et de Monaco. Et ce qui a fait ma signature, en fin de compte, c'est que j'ai eu le courrier d'Auxerre et Giroud s'est déplacé.
D'accord.
Donc, ça a tout changé, quoi. Ça a tout changé. Ça a fait donc, en fait, mais c'est pas moi qui ai pris la décision, c'est mon père. Je me souviens très bien, il m'avait posé la question. Il me dit, c'est quoi ton choix? Moi, je sais, c'est le mien, c'est lequel, mais le tien, c'est quoi? Et on avait eu la même idée en fin de compte. On avait choisi Auxerre.
Alors pourquoi toi t'avais choisi Auxerre et pourquoi ton père avait choisi Auxerre?
Ah, c'était un peu familial parce que Auxerre, c'était pas très loin de Paris et j'avais une sœur qui s'était mariée avec un à l'époque un paysan, voilà, un agriculteur. Qui vivait à une quarantaine de kilomètres d'Auxerre.
D'accord.
Et puis la proximité aussi, Paris-Auxerre.
Paris-Auxerre.
Voilà.
Mais à ce moment-là, t'as pas mis un pied une seule fois à Auxerre ou en Bourgogne?
Non. Même pas d'essai, rien du tout.
Non. Rien du tout. T'as pas fait d'essai? Tu pars, c'est un courrier?
T'as Giroud qui vient? 1982, pour le nouveau centre de formation qui, voilà, ils avaient choisi 20 joueurs dont je faisais partie. C'était le centre de formation pyramide, la JOCR.
Et c'est la première génération?
première génération. Avec, je suis arrivé avec les Cantona, les frères Bolli, Pascal Verroy, Guerrero, Ferrat Tirat.
Ils avaient déjà quand même, si c'est la première et d'avoir autant de succès, c'est quand même incroyable d'avoir autant de succès sur
l'œil de. Alors je sais pas si c'était Giroud lui-même qui était scout ou qui recrutait, mais c'est une génération exceptionnelle, surtout pour une première, pour un premier cru.
À cette époque, c'était Bernard Turpin qui recrutait avec Daniel Roland, le directeur du centre.
Mmh. Et alors question, donc tu sais qui te supervise quand tu dis que tu reçois des lettres du LOSC, de l'AS Monaco, d'Auxerre, etc. Est-ce que tu sais qui te supervise à ce moment-là ou c'est une surprise? Tu vas dans la boîte aux lettres et oh bah tiens, j'ai reçu une lettre de tel ou tel club. Est-ce que tu les attends ces lettres? Tu sais que qu'ils étaient là. Donc c'est un peu une
honnêtement, je pensais même pas que ça pouvait exister quoi. Voilà, tu n'étais pas encore dans ce monde professionnel. Non, je pensais pas du tout à ça. Pas du tout à aucun moment. À aucun moment, je faisais ma petite vie parisienne. Je prenais le métro, le bus, le métro pour aller m'entraîner à la porte de Montreuil à l'époque, au Paris FC. Voilà, c'était ma vie, quoi. Voilà, je rentrais tard. Je pensais que football, mais je pensais pas un jour être contacté en recevant des courriers pour des clubs professionnels.
Comment tu te sens quand tu reçois ta première lettre? Parce que là, t'es un peu surpris, mais là, est-ce que c'est... T'as du mal à y croire. Tu te souviens encore quelles étaient tes impressions quand tu vois ta première lettre comme ça dans la boîte aux lettres?
Plus de 40 ans après, je me souviens très bien là, les écussons sur les enveloppes. Ça m'a marqué. Les écussons des clubs sur les enveloppes.
Le côté un peu pro du truc, quoi.
Ouais, ça a marqué. C'est une image que j'ai encore aujourd'hui.
Est-ce que tu les as gardées, les lettres?
Moi, non. Peut-être mon père. Mes parents peut-être ont gardé. Mmh. Moi, non. Non. Faudrait que je lui repose la question.
Et vous avez fait une petite fête après la première quand tu as accepté l'offre de enfin, d'Auxerre ou est-ce que là t'es encore
focus de rentrer au centre de formation? Je me souviens très bien, j'avais pas de contrat la première année moi. Mm-hmm. J'avais pas de contrat. Je gagnais 200 francs par mois et j'étais nourri. Donc
et tu as quel âge?
J'ai 14 ans et demi.
D'accord.
Est-ce que tu es logé chez l'habitant ou est-ce qu'il y a une sorte d'internat avec tous les autres joueurs?
Non, on est dans un centre de formation à 20 personnes, on avait un gardien, on avait une cantine, on avait nos chambres. Là, j'étais en chambre double à l'époque.
Et avec qui t'étais?
Gaëtan Laclé. Un garçon qui s'appelait Gaëtan Laclé, ouais, qui venait du Sud.
Lui,
il a fait de la deuxième division quand même.
D'accord.
Ouais. Il y avait Eric Cantona, il y avait... Des personnes qui étaient un an de plus. On avait une génération, en fin de compte, où on était entre 66 et 67, les années. 66-67.
Et est-ce que tu te souviens la première fois que tu arrives justement à Auxerre? Comment ça se passe? C'est tes sentiments? Est-ce que tu as des souvenirs de ce moment-là ou pas?
Bien sûr, j'ai des souvenirs. J'arrive au stade, mes parents me déposent au stade. Et après, ils repartent et ils m'accompagnent jusqu'au centre de formation. Je découvre le centre de formation. Voilà, et... Honnêtement, j'ai eu un coup de blues.
À 14 ans, ouais. c'est pas évident.
Et Auxerre, on n'est pas, enfin, 14 ans, Auxerre, première fois.
Il y avait déjà une certaine pression, je sais pas, je me souviens, c'est des émotions qui me reviennent encore. Mm-hmm. Ça a été quand même difficile. Ça a été difficile quand même.
Et qu'est-ce qui t'a permis, en plus que ta personnalité qui a l'air assez bien trempée, qu'est-ce qui, à ton avis, t'a permis de passer ce cap? Est-ce que Giroud était vraiment, il était au petit soin avec les élèves ou c'était avec les aspirants, on va dire? Ou est-ce que c'était plus du
Daniel Roland ou...
Voilà, c'est ça, ou c'est plutôt Koh-Lanta, Survival of the Fittest, Darwinien, on va dire.
Quand on est arrivé, on avait un directeur du centre qui faisait aussi les séances d'entraînement, qui était Daniel Roland. Giroud passait à nous voir tous les jours. Il faut pas oublier que le centre de formation en 82, la pyramide, il y avait une quinzaine de chambres. Il y avait des terrains qui étaient en préparation autour. C'était des champs, on s'entraînait sur un terrain plutôt vers le stade, nous, qui était tout en sable. Et c'est nous qui avons préparé les terrains de foot. Tous les jours, déjà, on commençait par enlever les cailloux sur le terrain. Ah c'est oui. Nous qui avons semé la pelouse. Voilà, c'était
un double job.
On a vécu des trucs incroyables. Incroyables. Voilà, vous voulez travailler, vous voulez avoir des beaux terrains, et ben maintenant, vous allez les préparer. On travaille avec les jardiniers et tous les matins, on s'en souvient très bien. Même les gars comme Eric Cantona, les frères Bolli. On faisait tous partie de ces moments-là qui sont des souvenirs encore marquants aujourd'hui, quoi. Qu'on repart quand on se recroise. On a vécu des choses incroyables. Incroyables.
Donc, il y avait un petit côté Karate Kid.
C'est ouais. de... Bah, c'était la période de Karate Kid d'ailleurs. Hein. On allait voir ça au cinéma à l'époque. Hein.
Est-ce qu'il y avait des bizutages dans les chambres où est-ce que tout le monde était très sage parce qu'ils avaient peur de Giroud? Ou est-ce que vous faisiez des descentes dans les chambres
Bien sûr.
Ça peut se faire dans les internats, par exemple.
Bien sûr, il y avait des bizutages, oui, bien sûr. Les jeunes qui arrivaient, parce que au fur et à mesure, chaque année, il y avait des jeunes qui arrivaient. Mais dans la saison aussi, entre nous, ouais, on faisait les cons. Hein. Faut pas se cacher. Hein. On faisait vraiment les cons. Le fait d'avoir 15, 16 ans après, en grandissant, bon, on aimait bien sortir aussi. Hein. Voilà, on avait, je me souviens au départ, on avait le droit à une sortie le lundi soir. On avait notre ticket pour aller au cinéma. Un lundi, en plus.
Lundi soir, à Auxerre, c'est pareil.
Il y avait le cinéma d'ouvert. Il y avait le cinéma. Donc, on allait au cinéma. Et même Giroud, des fois, nous accompagnait. Donc, c'était.
Non, mais c'est vrai. Ça devait vous aider avec les gonzesses.
À minuit, il fallait qu'on soit rentré. À minuit, le lundi soir. Ils ne laissaient pas le samedi soir, c'était à minuit. Hein. Bon, il y avait les matchs au hôtel. Mais...
Et c'était qui le plus ouf à l'internat? Enfin, je veux dire l'internat, mais on va dire au centre. J'ai envie de dire Cantona, mais bon, c'est tellement cliché que c'est, à mon avis, quelqu'un
qui
est un
peu. Voilà, on était tous un peu. Un peu espèce, hein. On avait tous notre caractère, et puis, on a vécu des moments dans la salle télé aussi. On avait uniquement une télé dans une salle, une salle de télévision, où on se battait pour les chaises. Il y avait toujours des chaises parce que les plus costauds, ils prenaient deux chaises pour pouvoir s'allonger, et le plus jeune ou le plus maigre, ben, il avait qu'un siège pour regarder la télé le soir, quoi. Et donc, ça finissait pas souvent par bagarre dans la salle télé.
Ouais.
Et tout ça pour regarder Dallas ou des matchs de foot.
Ouais, ou un petit tour rapide, quoi.
On était fans de Dallas à l'époque, hein, au centre de formation d'Auxerre.
Mais est-ce qu'il y avait quand même de la solidarité? Ça revient sur la question de Michel. Donc, vous avez vécu des moments assez sympas. Il y avait quand même de la solidarité ou chaque année, il y en avait qui partaient et au contraire, ça commençait à être une compétition entre vous?
On s'est jamais mis de compétition entre nous. On a... Jusqu'à temps qu'il y en a un qui sorte, on est très très heureux à chaque fois. Le premier, c'était Basile Boli à sortir en professionnel. Il avait 16 ans. C'est lui qui a atteint le premier l'équipe professionnelle. Moi, j'ai fait partie des. J'étais dans les trois avec Daniel Dutuel. On était trois. Deuxième Cantona. Et on était très contents et très fiers. On faisait des fêtes pour ça même. On faisait des fêtes pour ça.
Alors, je pensais aux sorties moins positives.
Je vais vous dire une chose, c'est que aujourd'hui, on a un groupe WhatsApp avec tous les anciens joueurs.
C'est marrant, on pose toujours la question.
Ouais, on est le groupe des pharaons. Pharaons au Serrois.
D'accord.
Parce que pyramide.
Voilà, exactement.
Alors, il y a qui dans ce groupe?
Ben, il y a Bouli, voilà, les frères Bouli, il y a Pascal Véroy, je pense que vous allez bientôt interroger.
Oui,
exactement.
Il y a Daniel Dutuel, des Guerrero. Il y a du bon monde. Il y en a même des anciens qui sont venus nous rejoindre. Parce qu'ils étaient passés par Auxerre, mais pas par un centre de formation. Des Gérard Lantier, des anciens joueurs aussi qui veulent participer un petit peu à ce qu'on fait. Donc, c'est sympa.
Mais tu vois, quand tu évoquais les sorties, tu as évoqué les sorties plutôt vers le haut, mais je pensais plutôt aux sorties vers le bas, c'est-à-dire ceux qui partaient du centre parce qu'ils n'avaient pas le niveau ou pour des raisons disciplinaires. Est-ce que ça arrivait souvent dans cette première génération qu'il y ait des personnes qui ont dû, au bout d'un an, deux ans, partir du centre?
Oui, il y en a eu quelques-uns, oui. On en a eu quelques-uns. Je pense à, j'ai deux, trois noms, oui. Des joueurs, d'ailleurs, où j'étais en concurrence. Voilà. Peut-être qui étaient peut-être plus doués que moi, mais mentalement un peu plus faibles.
D'accord.
Voilà. C'est les plus forts qui s'en sortaient à cette période-là. Voilà. Je sais que Daniel Roland et Giroud recherchaient des joueurs à fort caractère et mentalement très, très fort aussi.
D'accord.
Ils savaient qu'en ayant ça, on pouvait les faire progresser. Techniquement et physiquement. Je pense qu'à l'époque, c'était par rapport au mental qu'il fallait qu'on réussisse. C'est ça la première des forces et la première des choses, bien sûr, qui a intéressé Giroud et Daniel Roland.
Et toi, ton mental, c'est quoi, justement? À 16 ans, mais peut-être que maintenant, c'est toujours le cas. C'est quoi ta force mentale, justement?
J'ai toujours aimé travailler. Hein. On peut avoir un talent et des fois, ça suffit pas. On peut avoir aussi un talent et il faut le travailler. Je pense que les grands joueurs actuels, ils ont du talent, mais s'ils travaillent, ils sont encore plus forts. Ouais, mentalement, j'ai toujours aimé bosser, quoi. J'ai même vomi sur des terrains, voilà, en travaillant dur. J'ai appris comme ça. Hein. Peut-être c'est mon éducation aussi qui a voulu ça. Très jeune, j'allais sur les marchés avec mes parents. Voilà, mon père était poissonnier, hein, pendant 45 ans. Il faisait les marchés. J'allais souvent à Rungis à 2h du matin avec lui à l'époque à Paris, avant d'aller à l'école.
Wow.
Voilà, j'étais, c'était des bons souvenirs.
Du romal, quoi.
Ouais, mais c'était sympa, j'aimais ça aussi.
Bah donc, ça t'a aidé après à être jardinier à la Baie des Champs, quoi. Donc, t'es passé de... Après,
il a fallu semer tous ces terrains et qui sont devenus de très, très bons terrains qu'on a pu profiter par la suite. Ouais. C'était, c'était vraiment fabuleux.
Mais alors, quand toi, tu viens à Auxerre, c'est pas du tout l'Auxerre qu'on connaissait dans les années 90. C'est pas une équipe qui joue les premiers rôles en première division ou même en deuxième division. Quand tu arrives là-bas, ils sont en troisième division.
Non, quand j'arrive là-bas en 90, ils sont bien en première division.
Non, ils viennent de monter, je crois. Hein.
Ils viennent de monter en 1980. Ils sont finalistes de la Coupe de France en
1960. Contre Nantes. Oui,
ils perdent. Et l'année suivante.
Non, ils commencent, c'est la première année.
Ouais, voilà. Donc, ils sont quand même en première division.
Faire partie de cette équipe qui va régner sur la Ligue 1. Est-ce que c'est pas un peu la thématique de votre groupe WhatsApp, là, le côté un peu précurseur de les vrais de vrais d'Auxerre?
Les OG.
Moi, à chaque fois que je retourne sur Auxerre, on parle uniquement de cette période. Il y a eu des bons moments aussi avec les Mexès, les générations Mexès, Cissé et tout ça.
Ouais.
Et on parle plus souvent de la génération des Pruniers, Cantona, Verrois, Bolli.
Ouais.
Et on a vraiment marqué l'histoire du club, vraiment. Mmh. Je pense que, et en même temps, c'est nous qui avons démarré cette histoire aussi. C'est nous qui l'avons démarré.
C'est marrant quand tu dis ça parce que c'est vrai que si c'est Mexès, c'était aussi des joueurs ultra doués qui ont eu une très belle carrière. Mais quand on pense à votre génération, justement pour revenir à ce que tu disais par rapport aux personnalités, c'est que des gros caractères. Je veux dire, Bolli, Cantona, toi, enfin, c'est.
Même Dutuel,
qui est
bien sûr, parce que pour réussir aussi, ce qu'il a fait en Espagne.
Voilà ce qu'il a fait aussi toute sa carrière. On avait une force de caractère incroyable. Il y a eu des joueurs à fort caractère, mentalement très très fort. On a souffert pour en arriver où on est arrivé, quoi. On a vraiment souffert. Le coach, je dis souvent, oui, souffrir pour réussir. Et on a souffert, on a réussi. À 90% de la formation de cette période-là.
Alors, quand t'as 16 ans, c'est qui ton modèle? C'est qui la personne que tu suis? C'est qui ton mentor de foot à 16 ans?
Il y avait Yvon Leroux.
Bien sûr.
86.
Yvon Leroux, qui était en équipe de France.
Le Nantais, oui.
Ouais, qui était grand, ouais. C'était un peu, pas mon idole, mais je me reconnaissais un petit peu en lui. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'étais plus fort que lui.
On va la voir bientôt, Yvon Leroux. Donc,
on l'aura sur le programme et on pourra.
Non, mais c'est vrai que c'était un modèle.
Ouais, Yvon Leroux, ouais, c'est.
Le rock breton. Ouais.
À ce moment-là, c'est vraiment séparé l'équipe, justement, de D1 d'Auxerre et les jeunes, ou vous commencez déjà à vous entraîner avec les pros ou...
Moi, j'ai fait mon premier entraînement professionnel, j'avais 15 ans et demi. Donc, c'est pas totalement séparé. Je me souviens aussi, quelques fois, on s'entraînait en même temps que les professionnels. Voilà, et Giroud venait même sur le terrain d'à côté pour voir ce qui s'y passait.
D'accord.
Et il avait déjà un œil, de gros yeux même sur la formation.
D'accord. Donc,
je me souviens, à ces périodes-là, moi, il y avait beaucoup d'étrangers. Il y avait Zarmac à l'époque, qui jouait là-bas, avec Patrice Garande.
Bien sûr. Qui n'est pas étranger. Hein.
Ouais.
Qui n'est pas étranger, William. Patrice, il n'était pas étranger.
Ouais, voilà. Il y a eu Pavel Janas aussi.
Ouais.
Claude Barret. Ouais. Il y avait Joël Batte dans les buts.
Ouais.
Quand j'étais au centre de formation. Donc, il y avait quand même une belle génération aussi à cette période-là.
Est-ce que Joël est dans votre groupe WhatsApp?
Non, il n'est pas dans le groupe. Non. Il est trop vieux. Il y a un certain âge, il y a des limites.
Je crois qu'il a pas WhatsApp. C'est ça que tu veux dire, William? D'accord.
Ça.
Non, mais je demande parce que on a essayé de le joindre et il est introuvable. Mais vraiment introuvable. Je sais pas s'il habite dans une forêt quelque part sans
accès
à Internet, mais il est vraiment difficile à localiser, que ce soit, on a essayé à l'Impact de Montréal, à l'OL, on a essayé un peu partout.
Mais lui, ça a toujours été ça. Il a toujours été comme ça, Jo. C'était plutôt un poète, hein.
Ouais, je me souviens de sa chanson. Il avait sorti une chanson en 86, il me semble. Le petit escargot, ça s'appelait.
Ouais.
Donc, t'es Auxerre, tu as 15 ans et demi, tu t'entraînes avec les pros. Est-ce qu'il y a une certaine bienveillance des pros à l'époque, ou est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'ils vous voient un petit peu comme la génération qui va les foutre à la porte?
Je me rappelle très très bien. Je m'étais changé dans le vestiaire à côté. On était, je crois qu'il y avait déjà Basile et Eric Cantona. Moi, j'avais été changé dans le vestiaire d'à côté. Roux m'avait mis dans un vestiaire à part. J'avais été très, très bien accueilli par les anciens. même chouchouté même à l'époque. D'accord. Chouchouté. Hein. C'est très bien passé, mais je m'étais changé tout seul dans un vestiaire. Guillaume m'avait mis dans un vestiaire isolé, ouais. Ouais, non, mais c'est vrai.
Il voulait. Et pourquoi?
Qu'il y avait une parce qu'il y avait une barrière.
Ah ouais, d'accord. Vous n'étiez pas du même monde.
Voilà. Il montrait qu'il y avait, déjà à cette époque-là, il montrait qu'il y avait une barrière, quoi. Et je pense que.
Il fallait franchir, en fait, quelque part.
Ça se fait plus, ces choses-là. Ça se fait plus. Il y a quelques clubs qui le font, parce que moi, je l'ai vécu un peu à Montpellier, mais, sinon, c'est très rare. Moi, je le fais un petit peu à mon niveau, à bas niveau, en tant que coach. Où je fais venir des jeunes joueurs et je les mets dans un vestiaire à côté, c'est pour leur montrer qu'il y a un monde entre les deux.
C'est ce qu'on. Est-ce qu'ils sont réceptifs? La nouvelle génération est réceptive à ce genre de hiérarchie ou de au discours dont tu parlais un peu plus tôt, travail, travail, travail? Parce qu'il y a ce cliché de la nouvelle génération qui veut une gratification instantanée, quoi, qui veut tout tout de suite. Alors je sais pas si c'est vrai, mais c'est effectivement moi, ce qu'on entend souvent.
Tout dépend de l'éducation. C'est tout dépend de l'éducation. Aujourd'hui, si quelqu'un est bien éduqué, il comprendra rapidement. Celui qui est un peu moins éduqué, ça va prendre un peu plus de temps, mais il va comprendre à force.
D'accord.
Surtout avec moi.
À force ou de la force? Pas compris. À force ou de la force? C'est pas. C'est très clair. Alors là, tu dis que t'es le troisième, t'es dans la troisième livraison de signature après Basile Boli et Eric Cantona, avec, tu signes en troisième. T'as quel âge à ce moment-là et comment tu négocies ton contrat?
Alors là, j'avais fait mes premiers entraînements, j'avais 15 ans et demi, mais c'était de temps en temps uniquement. Après, il s'est passé une année supplémentaire, une deuxième année, et c'est là que je suis arrivé vraiment dans l'effectif professionnel, c'est à 17 ans.
D'accord.
À 17 ans, ouais.
Donc. Et là, tu signes ton contrat à 17 ans?
Non, j'étais stagiaire pro à l'époque.
D'accord.
Donc, j'arrive chez les pros, je suis stagiaire pro uniquement. Je suis pas professionnel encore.
Et là, pareil, tu signes ton contrat tout seul. T'as pas d'agent, tu débrouilles.
Non, j'ai pas d'agent. Non, il me convoquait dans son bureau, il me dit, tu signes en bas de la page, hein, c'est tout. Voilà, c'était ça à l'époque avec Kérou.
C'est effectivement
ça.
Ce qu'on entend de différents joueurs de ta génération, c'est qu'il y avait pas de gros pouvoir de négociation du joueur. C'était, tu
signes là. Je me suis mangé par la suite.
C'est-à-dire?
Je me suis mangé par la suite. Bah, une fois que j'avais,
Un statut,
voilà, beaucoup plus de talent. Je travaillais avec un agent, voilà.
C'est là qu'on. Et t'as travaillé toujours avec le même agent. J'ai l'impression que les joueurs sont souvent fidèles à l'agent des débuts.
Ouais, moi j'ai travaillé avec un agent. Quand j'ai signé mon premier contrat professionnel à Auxerre, j'avais pas d'agent. Il m'a mis le contrat sous le nez. Je m'en souviens très très bien. De toute façon, ça marque hein, obligatoirement.
Mais bien sûr, c'est pour ça.
Il m'a dit, tu signes en bas de la page. Je te propose 7 ans de contrat. J'ai signé 7 ans.
Et là, t'avais quel âge?
Là, j'allais avoir 18 ans.
18 ans, donc tu étais parti pour 25 ans.
17 ans, ouais.
Mais ça, c'est après la fameuse grève de 82, non? Donc, il y a pas de. C'est encore légal, ça? Parce qu'on en parlait avec Christian Lopez et Didier Six, qui disait qu'il y avait une grève des joueurs et qu'ils avaient limité les contrats parce que Christian avait aussi signé un contrat de 8 ans à la Saint-Etienne. Mais donc, c'était encore légal des contrats aussi longs à l'époque.
Ouais, c'était
à ton
légal.
Époque.
Ouais, c'était bien légal.
D'accord.
Ouais. Bien légal.
Bien légal. Ouais. Non.
D'accord. Et là, pareil, tu négocies pas le salaire. Il te propose.
J'ai pas négocié. C'était 25 000 francs à l'époque.
Par an?
À la première année. Ouais. 25 000 francs. Donc en
ce
euros.
Ce qui était pas mal pour quelqu'un de 18 ans, j'imagine à l'époque.
Ouais, bien sûr, ça a changé ma vie. Voilà, je me cache pas. Non, ça a changé ma vie.
Alors, qu'est-ce que t'as fait avec ton premier salaire? T'as fait une folie?
Je me suis acheté une voiture, j'avais pas le permis.
T'as acheté la voiture avant d'avoir le permis?
Avant d'avoir le permis.
D'accord. T'as acheté quoi comme voiture?
J'avais acheté une Renault, une Super 5 Renault GT Turbo.
Ah oui, bien sûr.
Et j'ai été obligé d'enlever GT Turbo. J'avais fait enlever par le concessionnaire GT Turbo parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir des voitures rapides à Auxerre. Comme Giroud vérifiait tous les modèles d'auto qu'on avait.
C'est vrai qu'elle était trop rapide et elle était interdite?
Interdite.
Donc, t'as changé ton modèle pour faire croire qu'il était moins puissant que ce qu'il était, quoi. Normalement, on fait l'inverse.
Il a gardé le modèle, il a juste enlevé le, il a juste
c'est enlevé ça. Par le concessionnaire.
Exactement. Voilà. Non, mais c'est l'inverse de ce que font les jeunes. C'est-à-dire qu'ils mettent souvent, des jeunes, ils mettent des trucs un peu plus puissants pour faire croire que leur modèle est plus puissant que ce que c'est. Toi, t'as dû faire l'inverse, c'est-à-dire, t'as dû réduire officiellement.
J'étais pas le seul. Non, il était, il disait que ça valait pas le coup d'avoir une voiture rapide ou une belle voiture. Ouais, c'était interdit.
Et qui t'a donné le truc
justement... En même temps, j'ai passé mon permis. En même temps, je passais mon permis aussi.
Mais ouais. Qui t'a donné le truc d'enlever le GTI? Parce que c'est quelqu'un qui t'a conseillé de le faire, non? C'est toi-même qui t'es dit que tu allais l'enlever ou il y a un de tes copains qui t'a dit oh, fais-le parce que
il y, avait, hein, y en a qui avaient connu l'expérience déjà même avant moi. Ils avaient acheté des Golf GTI et ils avaient enlevé GTI. Ils avaient juste écrit Golf.
et à ce moment-là, t'habites à Auxerre, William? Toujours? T'habites toujours à Auxerre? Enfin, là, à 18 ans?
J'ai fait ma première année en pro, donc j'avais 17 ans. 17 ans et demi, et j'ai vécu encore une année au centre de formation.
D'accord.
Et après les matchs, surtout à l'extérieur, c'est Giroud qui me ramenait au centre de formation. Il ouvrait la porte du centre, il me faisait rentrer, il me disait bonne nuit. Voilà. Et il m'enfermait de l'autre côté, j'allais dans ma chambre et j'allais dormir.
Waouh.
Ouais, c'est lui qui m'a accompagné jusqu'au centre de formation. Ouais. Et les autres ont vécu la même chose, Basile a vécu la même chose, hein. Même s'il a quitté un peu plus tôt le centre de formation, mais moi, j'ai fait une saison complète en pro. Où je vivais encore en centre de formation.
D'accord. Et quand tu quittes,
ça avait un côté rassurant ou un côté un peu flic ou un peu les deux? Comment toi tu voyais ça à 18 ans? Il y avait ce petit côté paternaliste ou est-ce que c'était plus j'aimerais bien qu'il nous lâche les basques l'ami Guéraud. Comment tu te sentais vis-à-vis ça?
Ce que j'ai fait maintenant, voilà, je peux le dire maintenant. Je vivais au centre, mais j'avais quand même loué un studio au centre-ville. J'avais déjà mon petit chez moi.
D'accord.
J'avais
d'accord.
Déjà mon petit chez moi où je pouvais de temps en temps aller passer un peu de temps. Ouais.
D'accord.
J'étais professionnel, donc j'avais les moyens de me payer un petit appartement.
À Auxerre. À Auxerre. On n'est pas non plus sur New York, hein. Donc,
ouais, exactement.
Mais Giroud, tu penses qu'il savait pas ça, qu'il avait pas le numéro de téléphone de tous les agents immobiliers de tout Lyon? Tu penses pas qu'il savait ça? Et qu'il a fermé les yeux?
Peut-être qu'il a fermé les yeux, mais il fermait pas les yeux souvent. Hein. C'est bien grand ouvert. Non, mais c'est vrai qu'il surveillait exactement tout ce qui se passait, tout ce que fait et geste de notre part. Il suivait tout. Hein. C'était impressionnant. Il était vraiment derrière notre cul à chaque fois. C'était impressionnant.
Mais comment tu gérais ta garçonnière? Ta double vie là, ta garçonnière à Auxerre et puis ton centre de formation.
Ouais, parce que je voulais avoir ma liberté et le fait d'avoir un appartement, c'était un studio. Hein. Voilà, voilà, le fait d'aller passer une heure ou deux dans la journée ou
pour lire. Soir, peut-être, tu y allais pour lire, j'imagine.
Ouais, voilà, c'est ça pour lire. Mais non, mais c'était rigolo quoi.
Mais tu dormais, par exemple, sur une année complète.
Ça montrait une certaine liberté, quoi, aussi.
Ouais. Ouais. Mais sur une année complète de 365 jours, combien de nuits t'as vraiment dormi dans ton studio?
Beaucoup, parce que j'étais déjà avec la femme de ma vie. Non, mais j'ai passé beaucoup de, ouais.
Ah oui, d'accord. Donc, en fait, tu allais au centre et tu partais par la fenêtre et tu revenais dans ton appart? Comment ça se passait?
Après, j'étais pas le seul à partir par la fenêtre, hein, mais. Parce que la pyramide, c'est très dangereux, hein. C'est comme ça. Hein. Donc les toits sont un peu raides hein, pour descendre. Hein.
Ah, c'est vraiment une pyramide.
Ah oui, c'est vraiment une pyramide, bien sûr.
D'accord.
Et avec des gouttières qui étaient un peu écrasées à force sur les années. Voilà, mais bon, après, on avait trouvé une bonne combine pour. On était plusieurs, hein, de toute façon. On avait récupéré les clés du gardien. Et un jour, c'est même moi qui ai été faire les passes en ville. Et on avait donné un passe à tous les joueurs pour qu'on puisse sortir chacun quand on voulait.
Ah, d'accord, vous avez pris les clés, fait un passe pour chaque joueur et redonné les clés au gardien.
Voilà. D'accord. Sans qu'ils s'en aperçoivent.
Joli. Là, l'alcool, c'est l'alcool.
On était bons quand même. Non, mais on a vécu des moments.
Et est-ce que ces clés, elles ont été passées de génération en génération aux nouveaux arrivants ou est-ce que c'était un peu le secret de la première génération?
Des pharaons.
Ça a été un secret, ouais. La première session, ça a été un secret quand même, et je pense qu'ils ont trouvé d'autres moyens aussi de s'échapper. Ils ont dû utiliser les mêmes moyens que nous aussi par la suite. Hein. Ouais, je pense.
Donc en fait, quand Giroud te raccompagnait le soir chez toi après les matchs, toi, 10 minutes plus tard, tu partais par la fenêtre et tu allais chez toi en fait.
Ouais, je faisais les petites parce qu'il y avait un gardien à l'époque. Hein, on avait un gardien qui nous surveillait. Bon, je faisais les petites ruses du coussin sous le lit. sous les couvertures.
À la fête, Bueller.
Ouais. C'était nul.
Et tu revenais à 6h du matin te coucher pour exactement. Être là le lendemain matin.
Ouais.
Wow, ça devait être épuisant.
Ah, quand on a 17-18 ans, non, c'est
ouais, c'est vrai.
Bon, ça devient une routine, quoi. Tu crois que c'est la vie, quoi. Tu le découvres, quoi.
Ouais, ouais, mais le truc, c'est que j'étais pas tout seul. J'étais pas tout seul. Ouais. Enfin, on était plusieurs. Des fois, il y avait plus personne dans le centre. Il y avait plus que le gardien.
Il y avait plus que le gardien. Il y a eu un accident, tu sais. Il y a eu un feu. On n'a retrouvé aucun cadavre. Il y a vraiment aucun cadavre. Là, ça, tout le monde est vivant. Ouais,
Est-ce que tu passais ta garçonnière, c'était devenu le truc, attends, j'ai rencontré cette fille, il faut absolument, je peux pas la rendre à la notion de formation, tu peux peut-être demander à William, il y a un studio. Est-ce que c'était devenu le plan de dépannage pour les autres pensionnaires ou non. Tu gardais ça vraiment?
Non, c'était mon petit, point tranquille, voilà, non. Il y en a qui ont fait peut-être ça, oui, je pense, ouais. Il y en a qui ont prêté un petit peu leurs appartements, les plus anciens. Voilà, il y avait bien sûr des...
D'accord.
Ouais, un petit peu de copinage quand même.
Et donc après un an, t'as rejoint officiellement ton appartement quand même.
Et oui, du coup après l'année suivante, j'ai eu la chance de pouvoir quitter le centre. J'ai pris un appartement un peu plus grand.
Ah, t'as quand même changé d'appartement.
Mais t'as gardé le studio. Donc Giroud t'a ramené dans le studio. Tu sortais par la fenêtre du studio et tu allais dans ton appartement.
Non, c'est pas ça. C'est que c'était l'année de l'armée. J'étais obligé de faire l'armée.
Le bataillon de Joinville ou
Bataillon de Joinville. Il m'avait donné laissé le choix. Il m'avait dit le SIGA à Auxerre, caserne de gendarmerie à Auxerre. On était plusieurs à cette époque-là, cette année-là, à faire le service militaire.
Et du coup, Sabri Lamouchi a fait ça, je crois. Sabri Lamouchi, il avait fait la caserne.
Du lundi au jeudi, je partais au bataillon de Joinville. À l'époque, l'entraîneur du bataillon de Joinville, c'était Roger Lemaire.
Roger Lemaire, exact.
Voilà. Donc j'ai passé une année où je m'entraînais du lundi quand même au bataillon du lundi au jeudi et je rentrais à Auxerre pour jouer le week-end.
Mais est-ce que vous aviez des activités vraiment militaires au bataillon de Joinville ou c'était vraiment complètement aménagé pour le sportif de haut niveau?
C'était aménagé pour le sportif de haut niveau quand même. Hein. Mais bon, quand vous réveillez à 6 heures pour lever les couleurs, vous êtes quand même à l'armée.
D'accord.
Hein. Voilà, surtout quand on a 18 ans et demi. Voilà, c'était en 88-89 ça.
Mais quand t'es habitué au centre de formation d'Auxerre, ça devait quand même pas te paraître super compliqué, j'imagine.
Non, mais je crois que c'était plus simple. Et je crois que William appréciait vraiment parce qu'il trouvait que c'était un moment de détente, le bataillon de Joinville.
Non, mais on avait quand même des gardes à faire de 12 heures aux 24 heures à l'époque. Voilà, on s'entraînait aussi le matin. Et derrière, on se préparait comme si on avait. Comme un militaire, dans la Fontainebleau, on a passé 2 ou 3 jours dans les nuits. On a appris à manier les armes, voilà, nettoyer les fusils, plein de choses. Non, on a eu le temps quand même.
J'aime bien ta carrière, elle est basée toujours sur un double métier. Footballeur le jour, la nuit, être jardinier, être poissonnier, et là, militaire, refaire des armes.
C'est incroyable. Incroyable. Non, bon, c'est dommage que l'armée se soit arrêtée.
Attaquant et défenseur, c'est vraiment un double, tout le temps double.
Souvent, ça a été comme ça. Souvent, ça a été comme ça, mais l'armée, ça m'a appris pas mal de choses aussi. Ça m'a appris pas mal de choses. C'était vraiment bonifiant pour la suite de ma carrière, je pense.
Et est-ce que tu as rencontré des joueurs qui sont après devenus des amis au bataillon de Joinville ou des copains?
Oui, bien sûr, hein, parce que bon, en foot, on était quand même nombreux. On était aussi beaucoup de clubs professionnels. Ah, je ne sais pas pourquoi Stéphane Moulin, qui est maintenant entraîneur de camp, avec qui j'ai fait l'armée. Il y avait Loïc Lambert aussi. Il y avait David Marot, gardien de Nantes. Il y avait beaucoup de monde. Fabrice Henry, qui est un ami encore actuellement, voilà, qui est mon ami, qui était à Sochaux à l'époque. Ouais. Il y avait Patrice Hérault, voilà, qui était à l'Olympique de Marseille.
Ouais. L'Olympique de Marseille, oui.
Il y avait des
le joueur formé à l'Olympique de Marseille et Toulouse.
Après. Il y avait Vasseur qui était au PSG, Jean-Luc Vasseur.
C'est vrai que ça, ouais. Est-ce qu'il y a un groupe WhatsApp des anciens du bataillon?
Non.
Non.
Non, on passe une bonne année ensemble, mais après, c'est qu'on se recroise sur les terrains parce qu'on est tous dans le milieu du foot, mais non, il n'y a pas.
On a interrogé plusieurs joueurs, mais ceux qui ont fait des centres de formation comme Auxerre, ils gardent une amitié avec ceux avec qui ils ont fait le centre de formation qui est quand même assez dingue et que peu de personnes peuvent imaginer ce que tu vis 3 ou 4 ans les uns tout le temps ensemble et effectivement à vivre des ascenseurs émotionnels tout le temps. Et je pense que c'est le cas, c'est que t'as dû.
Et puis on connaissait les familles aussi qui venaient nous voir sur le centre de formation. Hein, on connaît les frères et sœurs de tout le monde en fin de compte. C'est ça qui était bien. Les parents, les sœurs et frères qui venaient nous rendre visite au centre de formation à l'époque.
Quand tu dis les sœurs, t'as eu un petit sourire. Est-ce qu'il y a une petite histoire derrière
les
sœurs d'un des joueurs, non?
Et mes sœurs qui venaient me voir au centre de formation avec mes parents aussi, qui sont un peu plus âgés que moi, mais voilà, il y avait d'autres, il y avait des frères et sœurs d'autres familles aussi. D'accord. J'ai vu les frères Cantona débarquer aussi au centre de formation avec les parents. Ils venaient du sud, ça venait un peu de partout, de toute la France.
Ouais.
Il y avait des périodes comme ça où ils venaient nous voir. Et ça n'avait pas beaucoup de vacances. Hein.
Ouais, bon.
C'est obligatoire maintenant, ouais, c'est l'obligation de laisser des vacances. Moi, j'ai fait 2 ans centre de formation Montpellier. Il fallait leur laisser des vacances au mois d'octobre, au mois de février, au mois de décembre, au mois d'avril et au mois de juin. Incroyable. Nous, on arrivait en juin, au CER à l'époque. On partait pour Noël. On revenait au jour de l'an et on terminait en juin.
C'était la belle époque.
C'était la belle époque, ouais. C'était la belle époque. Alors, on travaillait.
Je sais pas si c'est vrai, donc c'est peut-être une légende, mais il paraît que Giroud vous poussait, notamment les jeunes, à rapidement vous marier ou à trouver quelqu'un de stable pour un peu vous structurer et éviter que vous fassiez la nouba. Est-ce que c'est vrai ou c'est une légende urbaine, cette pression?
Je sais pas si c'est Giroud spécifiquement, mais je crois que tous les entraîneurs essayaient de caser les footballeurs assez rapidement.
Ouais, moi j'ai entendu surtout Giroud, hein. Mais bon, William ouais, peut-être.
Giroud, c'était il voulait absolument savoir un petit peu notre vie privée, si on avait une copine, voilà. Et il disait que pour faire une carrière, il fallait se caser rapidement, voilà. Donc dès qu'on avait une copine qu'on avait trouvée, on lui présentait. Il disait que c'est la bonne. Moi, il m'a dit, j'ai pas rencontré la bonne. Mais je suis toujours avec ma femme, qui m'a permis de faire une grande carrière aussi. Je me suis beaucoup appuyé sur elle.
Ouais, enfin, je crois qu'il a eu raison pour William, mais j'ai entendu dire qu'il n'avait pas tout le temps eu raison. Hein. Donc, attention à son caractère, Madame Irma.
Une année, il y avait Enzo Schifo qui nous avait rejoint aussi à Auxerre pendant 2 années. Alain Roche à cette période aussi. Et dans l'année, il y a eu 11 bébés. La deuxième année, après ces joueurs sont arrivés, dans l'année suivante, il y a eu 11 bébés.
Ils ressemblaient tous à Enzo Schifo.
Non, c'était le hasard. Alors, beaucoup qu'on dit que c'était le ginseng que nous donnait Giroud. Voilà. Ouais. Les vitamines à base de plantes.
Donc, je pense que c'est surtout les longs hivers à Auxerre.
Ouais, les longs hivers à Auxerre aussi. Et il avait offert à chaque bébé un pot pour faire pipi. Et dès que l'enfant s'assied sur le pot, ça faisait de la musique.
D'accord.
Bon, il avait acheté à chacun
11 pots.
11 pots. Ouais. Voilà pour une petite anecdote.
C'est rigolo.
Mais on ne sait pas comment c'est tombé du ciel. Toutes les femmes ont accouché.
Voilà. En même moment, après, si tout le monde se marie à 18 ans ou 19 ans, à force, effectivement, à 23, 24, tout le monde a des enfants.
Non, mais c'était. Ils voulaient qu'on soit bien. Dans notre vie privée. Donc, on soit bien. Moi, quand j'ai fait mon premier achat, il a voulu absolument venir dans ma maison pour voir comment j'étais installé et tout. Voilà, il m'a dit, c'est bien, t'as fait un bon investissement. C'est très bien, continue comme ça. Faut toujours investir dans le dur. Voilà. Et j'ai loué en location, quand j'ai quitté le centre-ville d'Auxerre, ma première location en maison, c'était une maison à Guérou, je le savais pas. véridique. Dans un petit village pour être tranquille. J'ai dit, je vais m'éloigner un petit peu, qu'il me laisse tranquille. J'ai loué une maison, et un jour, il me convoque, il me dit, tu sais que tu loues ma maison? Et je loue sa maison, effectivement. Je me suis barré au bout de 6 mois.
Est-ce que tu as vérifié qu'il y avait,
au bout de 6 mois, je suis parti.
Est-ce que tu as vérifié qu'il n'y avait pas de caméra?
Ouais, j'ai tout vérifié, mais au bout de 6 mois, j'ai quitté la maison.
Donc, Auxerre, au niveau sportif, donc 15 ans et demi, donc là, tu es pro, 18 ans, tu joues, quelle est la saison où tu es vraiment complètement titulaire en défense centrale?
Dans les années 86, et je fais mon premier match vraiment où je sors plus de l'équipe. Après, c'est contre Toulouse à domicile où je prends l'international Yannick Stopira au marquage.
Ah, qu'on a eu sur le programme, notre premier invité, sacré joueur.
Ouais, grand buteur à l'époque, voilà, international.
Oui.
Donc j'avais un gros challenge à relever et je l'avais pris en marquage à l'époque. Et il fallait que je fasse du marquage individuel à la demande de Giroud. Hein. Et il m'avait dit quand il va pisser, tu vas pisser. Voilà. Je me rappellerai toujours de cette phrase. Voilà, une phrase à l'ancienne, mais bon. Voilà.
Ça marche. Ça marche.
Ça a marché.
Ça a pas marqué. En plus, 86, c'est vraiment l'année où, tu m'as dit 85, c'est l'année où il cartonne.
Ouais, l'année
c'est l'année où il est sans doute le plus fort.
Ouais. Ils avaient Beto Marseco aussi.
Ouais. Bah non, ils avaient une très très belle équipe. Et donc à ce moment-là, tu pars plus de l'équipe. T'as 19 ans, 18-19 ans. Comment tu vois la suite de ta carrière? T'as déjà fait les sélections jeunes. Est-ce que tu te dis l'équipe de France, elle va venir, ça devrait plus tarder? Puisque t'es aussi en espoir, il me semble.
Oui, je suis en espoir. Ouais. J'ai eu toutes les sélections de jeunes. Voilà, à l'époque, c'était minime cadet junior. On appelle maintenant U17, U18, U19, U20 et espoir. Voilà. Et j'ai eu toutes les sélections en jeunes. Et à un moment, oui, bien sûr, on a envie d'atteindre le sommet. Bon, j'ai eu une petite interruption, une saison complète au Auxerre, où je me suis gravement blessé. Je me suis fait les croisés avec rupture des ligaments croisés plus cartilage. Donc, ça m'a éloigné des terrains pendant plus de 8 mois.
Et ça, c'était en quelle année?
89-90.
D'accord.
89-90. Et je me souviens, le jour où je me suis blessé, c'était à Montpellier, en championnat. Après mon opération, je suis rentré sur Auxerre parce que je m'étais fait opérer à côté de Lyon, Chalon-sur-Saône. Et Guillaume m'a convoqué et m'a dit « Tu vas signer une année supplémentaire. » Il m'a fait signer un an de plus, il m'avait augmenté mon salaire et j'étais blessé.
Classe.
Donc, c'était un geste de classe. Et ça, j'ai pas oublié non plus quand même. J'ai pas oublié. Bon, ça fait qu'il me restait, il me restait 8 ans.
Il te restait 15 ans à faire. Non, mais... à 200 francs par année.
Il m'avait augmenté 250 francs.
Bon, il y a quand même le geste.
Il y a le geste.
Et quand tu te blesses comme ça, est-ce que tu as un doute que tu vas revenir ou?
Bien sûr que j'ai un doute parce que je suis en pleine bourre. C'est à l'époque où je suis vraiment en pleine bourre. Là. Je me sens bien sur le terrain. Roux me fait confiance, je suis un titulaire indiscutable dans l'équipe.
T'es sélectionné, il me semble. T'es sélectionné en équipe de France, mais tu joues pas.
Ouais, c'est je suis sélectionné en équipe de France. Je suis même sélectionné avant que je me blesse par Michel Platini, qui était sélectionneur en 89.
Ouais, 88, 80, 89, 92. Ouais.
Et je fais un match amical à Londres contre Arsenal.
Ah oui, je me souviens.
Et qui compte pas comme sélection.
Parce non, que exactement. C'est à l'époque où il y avait des matchs de sélection contre des clubs.
Ouais.
Ça se faisait un peu et ça comptait pas comme des sélections.
Ça comptait pas comme des sélections et pourtant j'avais joué titulaire. Voilà. Il y avait Papin dans l'équipe, il y avait Boli, Sauzé, Martini dans les buts. Non, il y avait une très très belle équipe. On avait joué à Londres contre Arsenal.
Et ça vraiment ce paradoxe. Mmh.
Ouais. Et quelques mois après, je me blesse ligament croisé, donc la sélection. Voilà.
Et il était.
Ah, mais entre temps, j'étais retourné en sélection avec Michel Platini. J'avais fait éliminatoire Coupe du Monde contre la Yougoslavie.
3-2. Bon,
pareil, pas rentré. Et aussi.
C'est son premier match, il me semble, contre la Yougoslavie. C'est le premier match. Son tout premier match, c'est ça?
Première sélection de Didier Deschamps, qui était sur le banc avec moi et qui est rentré. Encore deux matchs.
Et alors, il était comment Platini comme sélectionneur?
C'est lui qui prenait toutes les décisions. Voilà, mais les séances d'entraînement, c'était Gérard Rouillet à l'époque.
Ouais.
Mais il était comme sélectionneur, très joueur. Très joueur pendant les entraînements, il était en tenue, c'était voilà, les longs ballons, il nous montrait un petit peu. Il aimait bien s'amuser avec nous. Voilà.
Est-ce que quand tu dis très joueur, c'était il voulait encore montrer qu'il en avait sous la semelle parce qu'il est jeune encore à ce moment-là, hein, puisqu'il
prend sa
retraite en 87 et en 89, donc il a quoi, 34 ans peut-être?
Ouais, il est
34,
très jeune,
35 ans.
C'est juste à la fin de sa carrière. Et il était joueur aussi, puis chahuteur en dehors du terrain.
Chambreur un peu donc.
C'était un grand frère. Hein. Chambreur, d'accord. Exactement. Ouais. Mais quelqu'un de bien. Ouais, moi j'avais bien aimé.
Et quand tu dis qu'il prend toutes ses décisions, est-ce que alors nous on évidemment en tant qu'amateur, on connaît pas toutes les coulisses, mais est-ce que d'autres entraîneurs ou d'autres sélectionneurs, ils ont tendance à se reposer sur un plus grand staff et tu veux dire que Platini, lui, c'est vraiment lui qui décidait et que c'est lui qui prenait vraiment toutes les décisions ou qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça,
c'est lui qui, le fait de prendre une sélection, c'est lui qui choisissait les joueurs. Hein, je me rappelle qu'à cette période, il y avait beaucoup de joueurs de l'Olympique de Marseille. Hein, ouais, donc, moi, je venais de Petit Auxerrois. avec tous ces Marseillais, c'était un peu compliqué, mais bon. Voilà, mais on sentait que c'était lui le patron. On sentait que c'était lui qui avait le plus grand respect, même s'il était aidé en grande majorité avec Gérard Rouillet. Il y avait Henri-Émile aussi, qui était un grand intendant à l'époque.
Ouais.
Voilà, mais c'était lui le boss, hein, ça se voyait. La mise en place, c'était pas lui. C'était pas lui, c'était voilà, c'était pas un entraîneur en fin de compte, c'était vraiment un sélectionneur. C'est lui qui imposait ses idées, mais après qui les mettait en place, c'était différent.
Et comment tu décrirais ses idées? Est-ce que c'était offensif? Est-ce que c'était joueur à sa manière ou c'était plus structuré à l'italienne, on va dire?
Non, c'était très joueur. Très très joueur. C'était.
D'accord.
Ah non, c'était très joueur. C'était pas du tout à l'italienne. Non, c'est il voulait une équipe qui jouait. Non, je me souviens très bien, il y avait une équipe qui jouait. Non, je me souviens comment il nous parlait même à nous, les défenseurs. Non, il aimait bien les défenseurs techniques, en plus, comme moi. Donc, j'étais un défenseur très technique, attention.
Mais non, mais c'est marrant, tu dis ça, parce que tu as quand même marqué pas mal de buts. Rien qu'en
l'instant du buteur de ma jeunesse.
C'est ça, tu marques 25 buts pour 250 matchs, je crois, à Auxerre. C'est quand même pas mal. C'est un but tous les 10 matchs et tu tirais pas les pénaltys, il me semble.
Non. Il y a une saison à Auxerre, il y avait Gérald de Batil qui finit meilleur buteur de l'équipe. Il devait avoir 12 ou 13 buts. Et moi, je suis juste derrière avec 9 buts cette année-là. Plus 2 buts en Coupe d'Europe. Donc, j'avais ce don encore qu'on m'avait donné à mes débuts.
Paris FC.
Exactement.
Et donc, justement, là, pour être certain pour les auditeurs, tu commences ta carrière à Auxerre au moment où Auxerre commence même à faire des Coupes d'Europe et à être troisième, quatrième du championnat et à faire des Coupes d'UEFA. Donc, en fait, il y a vraiment un vrai parallélisme entre la montée en puissance d'Auxerre comme équipe européenne et ta montée toi-même en puissance dans l'équipe, quoi. Donc, tu commences aussi à vivre les premières épopées européennes d'Auxerre.
À un moment, on était très, très mûrs. On était devenu une équipe très mûre. Et je crois que le discours de Giroud nous a mis un blocage à un certain moment.
Ah bon? Parce d'accord.
Aujourd'hui, je pense quand même que, et je l'ai pensé bien avant, hein, que s'il nous avait laissé un peu plus de liberté, j'aurais fait partie des joueurs qui auraient été champions de France. Auxerre a été champion de France par la suite. Mmh. Gagner la Coupe de
96,
France, champion de France.
C'est ça. Mmh.
Aujourd'hui, on a peut-être l'une des plus belles générations qu'on ait jamais eues à la Auxerre avec les Cantona, les Boli, les Prunier, les Dutuel, etc., etc. Il y avait vraiment des très bons joueurs, les Charbonniers dans les buts. Mais on n'a jamais rien gagné, en fin de compte. On était des poulies d'or du football.
Il faut dire quand même, pour prendre la défense de Giroud, qu'à l'époque, Marseille, quand même l'équipe qui achète tous les, un joueur qui dépasse un peu, qui devient un peu meilleur que les 11, 12, 13, qui jouent à l'OM, Tapie l'achète pour affaiblir la concurrence. Donc il y a quand même,
Après aussi, il faut dire que c'est notre génération aussi, le fait qu'on n'ait pas gagné le championnat, qu'on finisse troisième, quatrième, qu'on fasse la Coupe d'Europe tous les ans. Il y avait quand même des sacrés adversaires qui étaient l'AS Monaco, Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, Girondins de Bordeaux, qui avait vraiment une très grosse équipe.
Ouais.
Je me rappelle, à l'époque, il y avait des joueurs plus âgés en face de moi, parce que moi, j'étais très jeune. Bernard Lacombe, Touvenel, Girès, Tigana, j'ai rencontré les Girondins de Bordeaux, moi, à l'époque, où j'avais que 19 ans, quoi. Voilà, j'ai vécu des matchs extraordinaires, mais c'était dur d'être champion à cette période-là. Et c'est dommage, mais si on nous avait enlevé ce petit blocage, parce que on partait toujours en début de saison pour jouer le maintien, ce qui était logique. Au fur et à mesure, quand vous êtes deuxième, troisième, quatrième, vous êtes à 2 points du leader et machin. Il manquait toujours un petit truc. Ouais, des fois, on voulait accélérer et on était toujours dans ce maintien où il fallait pas montrer qu'on pouvait réussir, quoi. On a l'impression qu'il nous protégeait même à cette période-là, même sur le terrain. On avait toujours envie de plus, nous. Toujours plus. Mais il y avait un blocage quelque part.
Donc quand tu dis blocage, c'était surtout un manque d'ambition, si je comprends bien.
Voilà, c'est un manque d'ambition.
Oui, et de liberté, parce que les deux vont ensemble. C'est un manque d'ambition, mais surtout de liberté où tu fais confiance à tes joueurs qui sont matures pour prendre des décisions et notamment faire le petit plus qui permet de gagner un match plutôt que faire un match nul ou faire un match nul plutôt qu'une victoire. C'est prendre des risques, en fait.
Voilà, c'est ça. Et quand on prenait des risques, je peux vous dire qu'on faisait mal. Au fur et à mesure, même moi, sur la fin, en fin de compte, de la Auxerre, j'ai lâché un peu les chevaux et je me sentais beaucoup mieux et beaucoup plus mûr aussi pour gagner des choses. Et c'est à ce moment-là, qu'un jour, j'étais devant le bureau, je dis, bon, maintenant, on va arrêter là et moi, je veux quitter la Auxerre. Il voulait pas me lâcher. Moi, c'était 50 contre 1. Et j'ai signé quand même à l'Olympique de Marseille. J'ai été transféré à l'Olympique de Marseille. Et à cette époque-là, j'avais le plus grand agent, qui est encore un grand agent, qui s'appelle Alain Migliaccio, que j'ai eu sous mon aile pendant 16 ans.
Alors, juste avant qu'on parle de Marseille, j'aimerais qu'on parle, si tu nous permets, de cette demi-finale contre Dortmund, qui est un des plus beaux matchs du foot français de club, qu'on a pu évoquer d'ailleurs avec Corentin Martins, nos auditeurs. Je rappelle que vous perdez 2-0 à Dortmund, mais après quand même un très bon match. Alors c'est le Dortmund, c'est la grosse équipe de Dortmund à l'époque. Mais vous sentez quand même qu'il y a de quoi faire. Et Corentin nous racontait que la veille ou que les jours précédents le match, vous partez au vert et vous faites une grosse bataille de boules de neige. Est-ce que tu te rappelles de ça?
Je me rappelle comme si c'était hier. Voilà. Mais même déjà après la défaite 2-0 à Dortmund, déjà dans le bus, on parlait du match retour, qu'on avait peut-être un match de championnat à jouer derrière. On parlait déjà du match retour, qu'on allait les éclater. Et on était parti au Brizard dans le Morvan, là, où il y avait de la neige. On partait toujours 2-3 jours avant le match de Coupe d'Europe. Et c'est vrai qu'on avait fait une bataille de boules de neige. Même moi, je me cachais dans la neige, sous les feuilles mortes, là, à l'époque. Là, on était une bande de...
Le bataillon de Joinville, tu avais appris quelques techniques de camouflage.
Exactement, exactement. Voilà, on faisait les cons, en fin de compte. On était encore dans cet esprit de folie. Voilà, mais Roux savait nous remettre un petit peu dans le droit chemin aussi, pour qu'on puisse être concentré, beaucoup concentré par rapport à ce qui nous attendait derrière.
Mais est-ce que cette bataille, c'était vraiment spontané, ou c'était plutôt Giroud qui vous dit « Ah bah tiens, il y a de la neige, les gars, décompressez, faites-vous une petite bataille pour lâcher les nerfs ». Dans quelle mesure tout n'était pas calculé par Giroud?
Non, c'était pas calculé, je pense pas, de sa part, mais nous, c'était plutôt instinctif de faire ça. On découvrait la neige comme des gosses, quoi. Et on a fait les cons, et puis je pense qu'il a dû s'en prendre 2 ou 3 par derrière. Voilà, et il se demandait, ça devait être qui lui avait balancé les boules de neige. Et à chaque fois, il criait prune, prune. Voilà, comme il m'appelait la prune. Mais c'est vrai que c'était des bons moments, décontractants avant de jouer une demi-finale Coupe d'Europe retour. Et peut-être l'un des plus beaux matchs à la vie au Cercle qu'on ait connu, pour moi. Même s'ils ont vécu derrière la Ligue des Champions, Milan AC, Real de Madrid. Mais encore une fois, tout le monde reconnaît que ça a été l'un des plus beaux matchs de la vie au Cercle en Coupe d'Europe. Malheureusement, qui s'est mal terminé.
Alors, vous commencez bien le match. Est-ce qu'à la mi-temps, vous avez... Est-ce que toi, t'es capitaine, pour ce match-là?
Oui, je suis capitaine.
Donc je crois que vous marquez.
Là, j'ai été capitaine pendant plusieurs saisons à Auxerre.
Voilà. Ouais. Mais pour ce match particulier, t'es capitaine. Corentin marque le premier but assez rapidement. Alors je me souviens plus si à la mi-temps vous avez déjà 2-0 ou si c'est 1-0 seulement. Mais qu'est-ce que tu dis, toi, est-ce que tu prenais l'habitude, est-ce que tu parlais souvent dans le vestiaire à la mi-temps?
Est-ce que je prenais la parole? J'étais un impulsif, moi.
Un homme de peu.
Je suis un impulsif, c'est-à-dire que je prenais la parole rapidement. J'étais encore à chaud, donc c'est vrai que quand je prenais la parole, j'essayais de bouger un peu tout ce qui se passait, quoi.
Mais
à la mi-temps, on y croyait encore plus. On avait réussi à remonter déjà un but, donc il fait un second. Mais Giroud, je crois qu'il s'en rappelle, parce que à la mi-temps, j'avais cassé des prises de courant de la télévision. Et il en raconte encore l'histoire. Oui, j'étais très énervé. J'étais tellement motivé et une envie de se qualifier que j'avais peut-être débordé un petit peu, mais j'avais bougé un petit peu tout ça. Ouais. J'avais bougé.
Et bien sûr, il les a déduits de ton salaire.
Sûrement, oui. Je m'en rappelle plus de ça, par contre. Je m'en rappelle plus. Mais je sais qu'on n'a pas regardé de la télé dans le vestiaire quelques temps, le temps que les prises soient changées.
Et donc, tu tapes dans les prises, mais est-ce que tu dis quelque chose, ou c'est juste une espèce de réaction primale?
Non, j'avais dit.
Pour remotiver un peu les troupes.
C'était pour remotiver les troupes et puis ne pas baisser les bras. On savait que c'était un match difficile. Dortmund s'était créé quelques occasions aussi, sur des contres. On s'en souvient très très bien. Et remobiliser le groupe. Il fallait croire qu'on avait la possibilité de se qualifier. On avait une finale derrière quand même.
Voilà. Et ouais, surtout que c'était
il y avait l'autre match Juventus PSG.
C'est ça. Ouais. Ah,
on voulait que, en fin de compte, on voulait que la Juve se qualifie. Et bien sûr, on était chauvin et que nous, on passe. Et voilà, on voulait faire un Juventus Auxerre à l'époque. Et les deux équipes françaises, malheureusement, sont fait éliminer. Mais pour revenir à la mi-temps, j'avais essayé de booster un petit peu ce groupe parce qu'on avait quand même des joueurs de caractère avec beaucoup d'expérience aussi, mais pas fou comme je l'étais. Voilà, retourner, grimper ces putains de montagnes qui étaient très, très difficiles à l'époque.
Et ta plus grosse gueulante en tant que capitaine, tu t'en souviens ?
Celle-là fait partie d'une bonne gueulante, hein, celle-là.
D'accord.
Ouais.
Donc tu gueulais
peut-être,
même quand
peut-être
vous gagniez.
Peut-être aussi en quart de finale, le quart de finale face à l'Ajax, match retour. Voilà, où on était en difficulté, mais même si on s'était créé beaucoup d'occasions, on avait gagné 4-2 le match aller. On perd 1-0 le retour, mais je crois qu'à la mi-temps aussi, j'avais redonné un peu de force. Ouais, j'avais redonné un peu de force. Mais Dortmund, ça a été bon. Après, on arrive à marquer le deuxième but. Hein. Mm. Je crois que c'est, mais je sais plus, c'est qui. C'est Franck Verlat, non? Je sais même plus.
Je crois que c'est Verlat sur corner, peut-être.
Verlat sur corner, hein, je crois. Ouais, c'est ça.
De la tête,
sur
de la tête, c'est possible.
Ouais, de la tête, ouais. Ouais, c'est sûr, c'est lui même, c'est ça. Après, donc prolongation, et puis on se crée beaucoup d'occasions. Et malheureusement, on va au tir au but. Voilà, tir au but où on fait 5-5 et il y a le sixième pour nous qui est Stéphane Maé qui le loupe. Voilà, il y avait 5-5. Je me souviens très bien parce que j'en ai reparlé il y a quelques temps, là, il y a 2-3 semaines, parce que je me suis fait éliminer la Coupe de France au pénalty. Les joueurs à moi qui n'ont pas eu le courage d'aller le frapper. Ils ont envoyé mon pauvre gardien de but aller frapper un pénalty. J'étais très, très en colère parce que, à un moment, je suis revenu sur des souvenirs. Je leur ai dit, même moi, j'en ai frappé des pénaltys, même en Coupe d'Europe, où j'ai pris des risques. Voilà, si je le loupais, ben, au moins j'avais tenté de le frapper. Et je me souviens sur les images, parce que je suis retourné les voir. C'est bizarre qu'on en parle, parce que je suis retourné voir les images il y a quelques temps. Et quand je vais frapper mon pénalty, il y a le gardien allemand qui me chambre un petit peu en allemand. Et je marque le pénalty, et j'ai la délicatesse de lui faire un doigt d'honneur derrière. Et on le voit bien, on le voit bien,
ouais,
sur les images.
Je m'en souviens, hein. Exactement, ouais. Exactement.
On voit bien sur les images YouTube. Et voilà.
Il y a des gens
qui sont allés voir. Mm. Donc, voilà.
Et ça les a. Et tu penses que ça, ils ont été réceptifs? Tu penses que la prochaine séance de tir au but, ils prendront un peu plus de risques?
Ben, ça sera les prochaines maintenant, parce que là, cette année, c'est le tir au but, ça sera terminé. C'est terminé. Donc. Mais non, ouais. Ben, mais qu'ils prennent leurs responsabilités aussi. Voilà, comme je leur ai dit, à un moment, c'est voilà, il faut. C'est un sport, c'est une passion, c'est. Il faut avoir un caractère pour s'imposer. Je pense que même les joueurs qui ont du talent, les meilleurs joueurs du monde, que ce soit Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappé, ils ont leur caractère. Ils ont un mental très, très fort. On le reconnaît pas assez, on parle pas assez de ça. Mais c'est des joueurs mentalement qui sont très, très forts.
Et la fin de cette première partie de l'épisode consacré à William Prunier. Rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie où William abordera sa sélection contre le Brésil, la fameuse controverse de téléfoot avec Jürgen Klinsmann, son transfert à l'OM et bien d'autres histoires. Merci de votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode du podcast des Légendes. Time.